Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous le connaissez. J'ai une heure pour vous montrer que la France bouge et que c'est vous, les acteurs de ce changement. En gros plan aujourd'hui, sur le monde de la bijouterie. Les acteurs français se démarquent et fabriquent aujourd'hui pour toutes les bourses. Elle est un des grands noms du luxe à la française. Elle fête ses 147 ans, Estée Dupont, et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis apprendre aux enfants les gestes qui sauvent, c'est la mission des petits héros, c'est la solution aujourd'hui. Sélectionnée au trophée de l'avenir, c'est ça la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, allez-y, décrochez donc votre téléphone dès maintenant pour être avec nous en direct sur Europe 1. Vous avez la parole chaque jour. Venez nous dire, tiens, comment vous choisissez, Anissa, vos bijoux et combien vous êtes prêts à débourser.
Oui, venez témoigner, n'hésitez pas. On lit également vos messages, vos réactions, vos questions aux invités de Raphaël Duchemin sur Twitter avec le hashtag Europe 1, sur la page Facebook d'Europe 1, n'hésitez pas.
Car s'achève aujourd'hui le salon Bijorka et vous allez voir que les réussites françaises sont nombreuses pour accueillir nos invités. Elisabeth Assayag est avec moi. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach Riyad Boulanoir, fondateur du compte Nickel et de la méthode Boulanoir. Salut Riyad.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes.
Acheter une paire de boucles d'oreilles, acheter une bague, un bracelet ou un collier, pour nous d'ailleurs, ou pour l'offrir, on l'a tous fait. Mais parmi les marques, il en existe qui sont françaises. Et c'est elles que vous allez découvrir avec nous aujourd'hui. Bonjour Céline Guillermé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice artistique de La Maison Altesse. La Maison Altesse qui apparaît comme telle en fait en 1969, avant c'est la maison Le Gros, hein, c'est ça, que fonde Achille Le Gros, qui est bijoutier en Ardèche, dans ce que l'on appelle à l'époque déjà la vallée du bijou.
Oui, c'est ça, donc c'est en Ardèche, à Saint-Martin-de-Valamas. Donc la société a été fondée en 1905, donc c'est une grande histoire en fait, une histoire de famille, une histoire d'entreprise, une histoire d'industrialisation autour du métier du bijou. 1912, l'usine fondée à Saint-Martin-de-Valamas, donc par la famille Le Gros, les frères Le Gros. 1917, le frère Georges Le Gros qui monte GL. Et puis ces deux entreprises qui se rassemblent ensuite en 99.
Oui, voilà. Parce qu'il y a des querelles à l'intérieur.
Exactement.
De la famille. C'est pour ça qu'il y a deux branches,
une saga, hein,
Altesse,
c'est ça.
Et GL. Puis il y a de nouveau une fusion. Et alors en 99, les deux groupes se réunissent et oui, donnent naissance au groupe GL. Puis il va y avoir des problèmes financiers. Et c'est là que Éric Lefranc reprend le flambeau et
c'est
redonne
ça.
Le nom Altesse au groupe. On est alors, je crois, en 2013. Vous,
exactement,
vous êtes arrivé depuis deux ans déjà.
Moi, je suis dans la société depuis deux ans. Donc je suis arrivée en 2011 et j'ai intégré cette société vraiment par amour des savoir-faire et des savoir-faire de la maison, c'est ça.
En 2015, vous lancez, parce que c'est vous qui êtes la créatrice des georgettes, les fameuses georgettes.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'il fallait justement redonner un coup de jeune à la marque Altesse.
Cette idée, elle est née en fait d'un concept de mélanger les métiers, les savoir-faire du bijou et les savoir-faire du cuir. Donc il faut savoir qu'en 2015, Renaissance Luxury Group a racheté la maison Texier, donc qui est basée en Vitré en Bretagne. Et cette idée, c'était une manière d'assembler les métiers du bijou et les métiers du cuir. Et c'était aussi pour la première fois se lancer comme une marque à part entière. Parce qu'il faut savoir que la société donc, produisait des bijoux depuis 100 ans, a été vendue dans énormément de points de vente sans forcément que le consommateur final connaisse la maison, sache nos savoir-faire et sache que c'est fabriqué en France.
Alors justement, c'est fabriqué en France et puis il y a un credo aussi, c'est faire du bijou à portée de toutes les bourses, je le disais
ça,
tout à l'heure, c'est-à-dire accessible. Ce sont des bijoux qu'on trouve à moins de 100 euros.
Oui, c'est ça. Et ce qui est assez drôle dans toute l'histoire, c'est que depuis le début de l'histoire de cette entreprise, l'entreprise a toujours veillé à rendre le bijou accessible. Donc c'est dès le début où c'était du plaqué.
Plaqué or.
Et plaqué or, exactement. Et où toutes les, on va dire, les métiers ont servi à industrialiser des étapes qui sont d'habitude artisanales et à rendre le bijou accessible, du coup.
Elisabeth, justement, combien on dépense en bijoux, nous, Français?
Alors, 100 euros en moyenne par achat. Et quand ce sont les hommes qui achètent, même s'ils sont moins nombreux, alors avec eux, le prix est plus élevé. Budget moyen, 235 euros. 73% des Français vont au-delà des 200 euros. Mais ce sont les jeunes qui achètent le plus. En tête, les jeunes âgés de 18 à 24 ans. eux, avec des sommes moyennes de 10-15 euros, pour 10-15 euros, ils peuvent s'offrir quelque chose qui va leur faire plaisir. Ils sont 66% d'entre eux à acheter régulièrement des bijoux fantasy.
Et le marché du bijou, globalement, se porte comment ?
Bien mieux. La reprise du marché profite surtout à la vente en ligne, aux spécialistes de la fantasy qui proposent des prix bas, ainsi qu'aux enseignes de bijoux fantasy implantées dans les centres commerciaux. Il y avait eu un recul des ventes il y a 2 ans, un recul de 2%. Et là, ça reprend gentiment. D'ailleurs, c'est seul le segment des bijoux fantasy qui est en croissance, plus 2%. Grâce à l'apparition des nouvelles marques qui attirent toujours ces jeunes. Au total, le marché du bijou, qu'il soit précieux ou fantasy, il pèse en moyenne 3,5 milliards d'euros en France.
Ce bijou fantasy, c'est aussi votre credo, hein, finalement. Oui. Vous avez voulu innover en proposant des modèles qui soient interchangeables justement avec les georgettes, où on peut mixer finalement les couleurs et les matières.
Oui, exactement. Avec la collection Les Georgettes, l'idée, c'était vraiment que la consommatrice devienne la créatrice de son bijou. Donc, on a un large choix de bracelets avec des motifs ajourés, des finitions différentes, un large choix de cuir réversible. Et en fait, votre bijou ressemble à celui de personne d'autre. Donc, vraiment, vous venez créer votre accessoire. Et c'était un peu cette idée un peu généreuse de se dire, donc, c'est fabriqué en France. Il y a un métier derrière, des beaux métiers, de la qualité. Et en plus, vous venez faire votre propre création et adapter le bijou à votre style.
Oui, et c'est important parce que vous avez 500 personnes qui travaillent aujourd'hui en France, oui, notamment pour les georgettes, et ce sont 50 000 georgettes qui sont produites chaque semaine.
Oui.
Ça fait beaucoup.
Oui, donc on a des ingénieurs full en Ardèche qui travaillent sur l'industrialisation et en fait la réalisation du, un peu comme une chaîne de production sur ces métiers qui sont d'habitude très artisanaux, où nous, on a réussi à industrialiser certaines étals pour le rendre du coup accessible et qu'on puisse en produire un assez grand nombre.
Oui, ici en France, c'est important de le souligner. Que dit notre coach Riyad ?
Ben, moi, je vous demande de quelle façon vous avez utilisé le digital pour une maison aussi ancienne ?
Ça a été un nouveau métier à acquérir. Donc aujourd'hui, on a voilà, des comptes Instagram, Facebook, etc. avec des équipes dédiées. Donc on a un e-shop aussi avec un atelier. Donc l'atelier, vous pouvez venir choisir votre bijou, choisir votre cuir, etc. Et c'est des nouveaux métiers qu'on intègre, qui sont hyper importants et en fait qui nous permettent aussi de parler directement à nos consommateurs. Et donc on a des clients qui nous suivent, qui sont assez fidèles et qui sont assez engagés par rapport à notre marque.
Parce que physiquement, vous êtes distribué partout ?
Oui.
D'accord.
Et justement, le digital aujourd'hui, ça représente combien sur, de parts dans vos ventes ? Je regardais, les georgettes, c'est 26% des ventes de produits fantasy aujourd'hui chez les bijoutiers, c'est énorme.
Oui, c'est énorme. Oui, on est vraiment un incroyable succès avec cette collection. Et en digital, je n'ai pas exactement la part, mais on est à peu près à 2 millions cette année sur notre e-shop, ce qui est une très très belle performance. Et voilà, on est plutôt ravis, oui.
Elisabeth,
vous dites que vous êtes distribuée partout, vous sélectionnez pas les réseaux, c'est tout type de réseaux, si bien les grands magasins que les petites boutiques de quartier.
Exactement, aujourd'hui,
pas de sélection.
Les georgettes ont démarré en 2015, donc tous les détaillants connaissaient la maison, connaissaient la qualité de la maison, donc ils nous ont ouvert les portes, donc on a implanté dans énormément de points de vente. On est présent aussi dans les grands magasins, Galerie Lafayette, Printemps. On a ouvert notre propre boutique aussi, rue de Sévigné dans le Marais, depuis le mois d'octobre. Et effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on y vienne à cette distribution sélective pour avoir un message de marque plus clair, plus cohérent. Surtout, la collection grandit. Tout le monde ne peut pas forcément
s'y retrouver.
Et voilà. Donc, mais au départ, on a vraiment été distribué partout. On a quasiment 1000 points de vente en France aujourd'hui.
En tout cas, c'est une belle renaissance à un moment où quand on voit qu'effectivement, la Maison Altesse a connu des difficultés au début des années 2010. On reste ensemble, on continue à parler de ces métiers français de la bijouterie aujourd'hui.
Il est 13h08. Europe 1.
Ces premiers bijoux étaient vendus sur la plage du côté de Saint-Tropez. Aujourd'hui, Gas est une des marques françaises de renom. On découvre ensemble son histoire dans un instant sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h. Et aujourd'hui, pour bien commencer la semaine, Raphaël Duchemin, vous mettez à l'honneur la bijouterie, la joaillerie française avec de très belles marques. Vous pouvez réagir à cette émission, n'hésitez pas. Venez poser vos questions, nous apporter vos témoignages, nous dire comment vous aimez vos bijoux. Au 39 21, c'est le standard d'Europe 1.
C'est encore une histoire de famille qu'on va vous raconter. remontée, celle-là est plus récente, mais vous allez voir que quand on a une bonne idée, elle grandit et elle prospère. Bonjour Olivier Gasse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le président de la Maison Gasse que votre père a créée en 1969. Je le disais, c'est à Saint-Tropez qu'il a commencé à vendre ses bijoux. Alors il avait fait les Beaux-Arts, il est revenu dans le Var et puis il a eu envie de fabriquer les modèles qu'il vendait en fait l'été sur la plage.
Exactement, il est sorti des Beaux-Arts, il a rejoint sa ville natale Marseille et il a commencé à fabriquer des bijoux, mais il fallait savoir où les vendre et il s'est dit je vais aller les vendre sur les plages. Voilà. Donc
années 60 c'était plutôt bien vu, hein, la voile
le
rouge,
début,
etc. Précurseur,
voilà, mais c'était vraiment le début d'histoire des plages, donc c'était le début de Pamplonne. Il est arrivé, il est parti avec sa deux chevaux de Marseille, il avait fait ses bijoux la veille. Et il est arrivé sur Pamplonne, voilà, où il a découvert le Club 55, toutes ces plages mythiques aujourd'hui. Donc il a commencé il était avec son panier, ses créations la veille, et il a commencé à aller voir les clientes qui finissaient de manger et leur proposer ses bijoux.
Oui, avec une clientèle internationale sur ces plages-là. C'est comme ça finalement qu'il va se faire, j'ai envie de dire, un carnet d'adresses et qu'il va pouvoir ouvrir au bout de 6 ans sa première boutique.
Exactement, il a fait cette période, on a appelé ça la route des plages. Donc pendant 6 étés, donc c'était long travail, il a arpenté toutes les plages de la Côte d'Azur et surtout autour de Saint-Tropez. Et il vendait ses bijoux, donc il repartait le soir dans les ateliers, il fabriquait. Au départ, il était tout seul. Après, l'atelier a un peu grandi. Bon, aujourd'hui, on est 80 artisans. Et donc, au bout de 6 étés, il a pu acheter la première boutique de la Maison Gasse Bijoux, donc à Saint-Tropez.
À Saint-Tropez, voilà. Elle est toujours là d'ailleurs.
Toujours là, notre boutique porte-bonheur, parce qu'on est place de la Garonne, donc un endroit magique et mythique. Et voilà, c'est notre vitrine de la maison depuis 50 ans.
Et alors, comment vous faites ensuite pour vous développer? C'est justement cette clientèle qui lui sert finalement de passeport?
Bon, on a eu la chance d'avoir évidemment à Saint-Tropez une très belle clientèle. Et ensuite, ce qui est magique, c'est qu'on a gardé ce même système de fabrication. C'est que
à l'idée.
Exactement. Donc, on est en flux tendu. Donc, on a nos ateliers à Marseille. On a 80 artisans aujourd'hui. Donc, on fabrique de façon quotidienne des petites séries. Et le lendemain, c'est proposé dans nos boutiques ou dans d'autres points de vente. Et on est en flux tendu. Donc, on travaille la matière et chaque fois en petites séries. Et donc voilà, c'est un peu notre force, notre particularité.
Et j'ai lu que votre père arrive quasiment tous les jours avec une idée nouvelle ou un bout de raffia ou quelque chose qu'il a envie de développer, de mettre dans les créations. Encore
donc,
aujourd'hui?
Toujours, on n'a pas de limite. Voilà, ce qui nous anime, c'est vraiment la créativité et le plaisir de faire des choses différentes. Bon, ça fait 50 ans qu'on fait des bijoux, 50 ans que mon père a commencé. Donc c'est sûr que lui, il est animé par faire des choses différentes. Donc c'est évident qu'il faut toujours être précurseur, être créatif, proposer des nouvelles choses.
Et vous travaillez vraiment par couleur, par matière, pas du tout par saison?
Non, on n'a pas... On est animé par faire de beaux bijoux, voilà, des bijoux qui vont sublimer la femme et qui vont mélanger différentes matières, mais on n'a pas de saisonnabilité. D'ailleurs, on ne fait pas de solde. Voilà, nos bijoux, ils sont vendus tout au long de l'année. Ils ont cette magie il y a une intemporalité dans nos bijoux. Donc il n'y a pas de saison. Et on travaille vraiment en série limitée avec des nouveautés qui sont proposées de façon quotidienne.
Notre coach, Riyad.
Alors, du coup, ça vous donne un catalogue produit là, que je vois qui est complètement impressionnant. Est-ce que vous avez des produits stars quand même, qui malgré votre créativité?
Oui, bien sûr. Oui. Donc on a des intemporels, donc des bijoux qu'on fait depuis 10, 20, 30 ans parfois, qui vont être à chaque saison renouvelés, réinventés. On va y ajouter une autre matière, une autre façon de travailler. Mais effectivement, on a la moitié de nos collections présentes en boutique. Ce sont des modèles intemporels qu'on retravaille, voilà, chaque saison.
Et quand un bijou ne se vend pas, il revient à l'atelier pour être repensé?
Oui, comme on ne fait pas de solde, on récupère les bijoux qui ont moins marché. Et après, le bijou, ce qui est magique avec le bijou fantaisie, c'est que sa vie ne s'arrête jamais. Peut-être qu'il ne s'est pas vendu parce qu'il y avait un problème de couleur, de composition, d'assemblage. Donc, on peut retravailler le bijou. Voilà. Donc, mon père était graveur à la base. Donc, il aimait bien marteler, travailler le métal. Donc, le bijou, même une fois fini, il n'est pas fini. Il peut avoir une deuxième vie. Donc, on peut le réemballer, changer les émaux. Voilà, c'est ce qui est assez magique dans notre métier.
80 artisans, hein, vous le disiez. 120 personnes qui travaillent à Marseille, notamment avec vous?
Oui, tout à fait. Enfin, on est 120 en France, 80 dans les ateliers à Marseille. Donc, ça fait une belle équipe. Et on a aussi des équipes, on a ouvert des boutiques à l'étranger, notamment à New York, Milan,
Tokyo.
Et c'est
vous qui avez eu vraiment envie de développer l'international. Je crois que c'est aujourd'hui quelque chose comme 30% de votre chiffre d'affaires.
Tout à fait, avec une progression de 2 chiffres pour l'international. On est encore une marque très présente sur le marché français, mais avec cette envie de faire découvrir nos créations à des femmes, que ce soit à New York, à Miami, à Tokyo. Voilà, faire découvrir notre savoir-faire, les créations Gaz-Bijoux dans d'autres pays.
Elisabeth, à part Gaz, à part la Maison Altesse, qui sont des marques françaises bien établies, heureusement, il y a d'autres entreprises françaises qui ont réussi. On est content d'ailleurs.
On est très content. Vous connaissez peut-être les Néréides ?
Oui,
non, la maison, c'est une entreprise niçoise, cette fois-ci, qui a été fondée en 1980. Aujourd'hui, elle est implantée partout en France et elle s'exporte à travers le monde. Ou encore la créatrice de bijoux français Aurélie Biderman, qui elle crée des bijoux disponibles aussi dans des centaines de points de vente dans le monde. Elle a 2 magasins à Paris. Et puis, il y a une marque française totalement éthique, c'est la maison GEM, J-E-M. C'est la première maison française engagée dans une filière Fair Minded, c'est un label de certification d'or éthique qui existe depuis un peu plus de 4 ans. Et là, par cet engagement, c'est une marque qui souhaite protéger l'écosystème de l'activité minière par rapport à l'or qu'ils vendent.
Justement, ce côté éthique, c'est quelque chose qui vous parle à tous les deux. Vous faites un travail aussi là-dessus sur la provenance des matières.
Oui, aujourd'hui, c'est vraiment intéressant et c'est dans l'air du temps. Et quand on travaille sur du Made in France, effectivement, on s'interroge. Et en tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Oui.
Même question pour vous, Olivier.
Oui, parce que nous, on utilise des différentes matières et le sourcing, il est mondial. Donc effectivement, on est très vigilants pour savoir d'où viennent les matières premières qu'on peut acheter, que ce soit les pots qui viennent d'Italie, les différentes chaînes, les pierres. Mais ce qui est magique, c'est comme on a un outil de fabrication depuis plus de 50 ans, on a un très beau carnet d'adresses, on sait où trouver... on sait où trouver les bons fournisseurs, les bons façonnniers. Et évidemment, il faut qu'il y ait un travail éthique. Et...
On reste ensemble, on continue à parler de ces bijoux français et de cette filière qui va bien aujourd'hui.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et si la joaillerie était aussi désormais à portée de bourse, c'est possible, vous allez le voir, grâce à une entreprise française. Elle s'appelle Gemio. À tout de suite sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec aujourd'hui les bijoutiers, les joailliers français, toutes les belles réussites qui brillent aujourd'hui. Elles sont toutes françaises, elles sont autour de vous. Raphaël Duchemin, vous venez les faire découvrir. Et vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. Ça se passe au standard, le 3921 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Vous serez d'accord, Anissa et Elisabeth, avec moi. Diamonds are girls' best friend, mais ils ne sont pas forcément les meilleurs amis de notre compte en banque.
Ah
alors,
oui.
Pour rendre en quelque sorte la joaillerie plus accessible, Gemio a été créé. Bonjour Pauline Léniaud. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est vous qui êtes au point de départ de cette aventure, j'ai envie de dire, parce que Gemio, ça démarre il y a 7 ans. Et alors, je crois que tout simplement, ça démarre par une histoire personnelle parce que vous étiez en train de chercher votre bague de fiançailles et vous n'aviez pas vraiment trouvé en poussant la porte des grandes marques ce que vous attendiez.
Bah exactement. En fait, je me suis fiancée. Je ne connaissais rien au secteur de la joaillerie, pour être honnête, et mon mari non plus. Mais juste, on voulait un bijou. On n'avait pas de bijou de famille. Et on a été très déçus par l'expérience alors qu'on pensait que ça serait un moment assez joyeux de complicité où on allait juste pouvoir découvrir un nouvel univers. Et en fait, on a trouvé que c'était intimidant, que c'était très cher, qu'il n'y avait pas finalement beaucoup de choix. Il y avait beaucoup d'or blanc, de diamants, mais il n'y avait pas tant de choses que ça. Et donc, on a trouvé que c'était dommage et qui a été une opportunité de un peu réinventer la façon dont on achète et dont on vend des bijoux et de faire une marque plus jeune, plus sympa, plus décalée, juste plus naturelle aussi et plus authentique.
Mais alors attendez, quand on ne vient pas du tout de ce monde-là, comment on fait pour créer une marque de joaillerie?
C'est pas facile, je peux vous dire.
J'imagine.
Il a fallu commencer par aller essayer déjà de dessiner quelques premiers modèles. Alors au début, ils étaient très simples. Ensuite, on s'est dit, bon, nous, on veut vendre sur Internet parce que ça va nous permettre de proposer un nouveau concept qui est que plutôt que de payer le stock de joaillerie qui coûte très cher, parce que dans la joaillerie, il y a les matériaux premiers qui coûtent très cher, on s'est dit, on va fabriquer pour nos clients sur mesure.
À la demande.
Exactement, à la demande. Et donc, ça nous permettait de ne pas avoir ce stock à porter et donc de pouvoir avoir des coûts qui sont plus faibles et donc des prix pour nos clients aussi qui sont plus intéressants. Et donc, on s'est dit, on va créer ce site internet. Il faut qu'on trouve des artisans qui acceptent de travailler pour nous. Donc, on a mis énormément de temps à en trouver, mais finalement, on a trouvé des personnes avec lesquelles on travaille toujours, d'ailleurs, qui sont en France. Et on travaille 100% en France.
150 artisans,
exactement.
C'est ça qui travaille avec vous.
Ouais. On a
5
ateliers un peu partout en France. Ça a été un choix depuis le début. C'est vrai que, un peu comme pour les autres marques qui sont ici aujourd'hui, c'est finalement un choix qui n'est pas si anodin parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans la fantaisie, mais aussi dans la joaillerie. On ne le sait pas trop. En fait, c'est assez rare. Et donc, nous, c'était un choix important et aussi obligatoire parce que, comme on ne venait pas du secteur, on voulait absolument avoir une exigence de qualité et avoir des savoir-faire. Et donc, pour nous, c'était très important de à la fois moderniser la joaillerie, la rendre plus accessible, mais tout en capitalisant sur les savoir-faire français.
Et du coup, c'est vraiment Internet qui vous permet de ne pas avoir ces frais supplémentaires.
Exactement.
Que supportent les grandes marques qui ont des boutiques physiques. Vous avez aussi une mascotte qui vous a bien servi,
ouais.
C'est le fameux chat rose.
Ouais. Bah, en fait, alors, pour revenir sur votre premier point, c'est, les boutiques, finalement, coûtent cher, évidemment, mais c'est surtout le stock en boutique qui va coûter cher. Parce que, imaginez, pour un bijou, vous allez avoir, par exemple, 20 tailles de doigts différentes. Nous, en plus, on a à chaque fois des pierres et des métaux différents. Donc, ça fait quasiment 90 combinaisons entre le saphir, le rubis, l'émeraude. Chez Gemio, on a vraiment, en fait, 6 métaux et 15 pierres différentes. Donc, ça fait beaucoup de choix. Et donc, ça, c'était impossible d'avoir en fait, tout ce choix-là. Et c'est le fait de fabriquer sur mesure qui nous permet de fabriquer, donc, dans un temps assez rapide, 2 semaines. Ça, c'est grâce à la fabrication française, mais c'est ça aussi qui nous permet d'avoir des prix accessibles.
Elisabeth, justement, sur les prix, pour baisser les prix, comment font les autres marques?
Il y a certaines très grandes marques qui misent sur des petites collections fines et qui restent dans du très haut de gamme. Par exemple, Mauboussin. Mauboussin, c'est une marque haut de gamme, c'est une maison française qui date de la fin du 19e siècle. Et en 2014, les 3/4 des bijoux de cette marque étaient fabriqués en Asie. L'année dernière, Mauboussin a rapatrié 98% de sa production en Europe, 70% en France. Et l'or et le diamant sont travaillés avec un style qui permet d'avoir un tarif accessible. Donc on peut être très beau, haut de gamme. Et accessible.
Oui, avec un mouvement, un retour en France hein, qui manifestement est en train de s'opérer. Qu'est-ce que vous dites, Riyad, de tout ça?
Ben moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que ça suffit de vendre sur le web? Est-ce que, vu la gamme de prix, vu le moment crucial, c'est normalement une seule fois dans sa vie, enfin, on peut imaginer, est-ce que ça suffit pour passer l'acte d'achat et de payer sur le web?
Ben alors, c'est rigolo que vous posiez la question. En fait, les 5 premières années de Gemio, on n'avait pas de boutique et on vendait 100% de nos créations, 100% sur Internet. Et on avait tellement de clients qui nous disaient en permanence, on a besoin de voir, etc. Donc, on a ouvert notre première boutique 21 rue de Seine. Elle existe toujours à Paris dans le 6e. Et en fait, ça a été mais une explosion en termes de vente parce que tous les clients qui venaient, ah oui, ben, évidemment, étaient ravis. Et en fait, ça reste quand même du sur-mesure. C'est-à-dire que vous venez dans la boutique, vous essayez des modèles, pas forcément dans la bonne combinaison de pierre et de métal, mais vous l'essayez quand même, voyez si ça vous plaît. Et après, vous le commandez sur tablette, sur place. Donc, ça reste finalement digital, mais c'est quand même une expérience en boutique. Et donc, maintenant, on a une boutique à Lyon, une à Paris et une au printemps, Haussmann,
oui,
à Paris.
Vous avez fait le chemin inverse. Vous êtes allé du digital vers la boutique physique.
Ouais.
Vous avez 250 modèles, c'est ça?
On a
dans
à peu près 250 modèles, ouais, exactement.
50 000 bijoux déjà fabriqués sur mesure.
En fait, comme on n'a pas de stock, si vous voulez, ce n'est pas un problème. Donc finalement, c'est un bénéfice important pour le client. Et au-delà du prix dont on parlait, c'est le choix, tout simplement. Et en plus, je peux vous dire qu'un bijou, par exemple, à la bague que j'ai, en or rose et diamant, si jamais je l'ai choisi en or blanc et rubis, ça ne va pas du tout avoir le même look. Et
alors,
justement, on parlait
on
de bijoux
un peu sur
mesure. On
va la payer combien chez vous? On va la payer combien ailleurs?
Ça dépend de où.
Est-ce quel que est le dites, différentiel?
Mais globalement, on estime qu'on est autour de 50% moins cher. Donc deux fois moins cher quand même qu'un joaillier de quartier et qu'une marque, ça peut être même au-delà.
Et ce qui est intéressant aussi, on n'a pas parlé d'argent, mais 4 millions d'euros de levée de fonds. Et aujourd'hui, vous êtes en autofinancement.
On est rentable depuis maintenant plus de 2 ans. Oui, on a fait ce choix-là. C'est vrai qu'au début, pour se mettre le pied à l'étrier, on a investi. Et maintenant, en fait, on s'autofinance. Et donc, on se développe vraiment en propre en essayant de... juste d'apporter le meilleur rapport qualité-prix à nos clients.
On reste ensemble, on continue à parler bijouterie à la française aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Avec vous, bien sûr, aussi. 39-21, on vous attend. Venez nous dire quels sont vos choix, ce que vous aimez dans la bijouterie française. C'est Europe 1, c'est la France qui bouge. À tout de suite.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec la joaillerie française. Aujourd'hui, ils sont autour de vous, Raphaël Duchemin, et vous pouvez leur poser toutes vos questions. Alors n'hésitez plus, c'est maintenant qu'il faut composer le 39-21, le standard d'Europe 1. Vous pouvez également réagir, témoigner, poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Elisabeth Assayag est avec moi comme chaque jour sur Europe 1. À nos côtés aussi aujourd'hui, notre coach Riyad Boulanois et puis nos invités Céline Guillermet, directrice de collection chez Altès, créatrice des Georgettes, Olivier Gasse, président des Bijoux Gasse, et Pauline Léniaud, fondatrice de Gemio. On parlait tout à l'heure hors micro des copies. Comment est-ce que vous faites avec les copies aujourd'hui? Est-ce que vous êtes beaucoup copiée, Céline Guillermet?
Oui, donc avec le concept des Georgettes, on a été énormément copiés. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a embauché 2 juristes à plein temps en interne pour se battre justement contre ces copies et faire valoir le fait qu'on est la marque originale qui avons créé le concept. Voilà, oui.
Oui, beaucoup copiés et vous gagnez à chaque fois?
Alors là, en tout cas, oui, on a gain de cause à chaque fois, d'autant qu'on a un brevet déposé sur le bijou. Donc, ça nous permet de nous défendre aujourd'hui contre les copies.
Et du coup, comment un consommateur peut être sûr qu'il a bien un bracelet Georgette et pas autre chose?
Alors, donc, sur le bracelet laiton, il y a marqué les Georgettes. Donc, c'est gravé sur chaque bijou, c'est gravé. Et voilà, donc, du coup, la marque est gravée sur le bijou. Il y a soit un G, soit les Georgettes.
Même question pour vous, Olivier Gasse. Vous êtes obligé d'en passer par des brevets? brevet, il y a un signe distinctif quand on achète un bijou GAS?
Tous nos bijoux sont griffés GAS bijoux, évidemment. Après, tous nos dessins, tous nos modèles sont déposés. Donc, il y a une vraie protection, politique de protection autour de nos créations. Ensuite, bon, on se défend, évidemment. Mais pour nous, c'est la rançon du succès. C'est un devoir. Ça nous oblige à toujours être plus créatifs et aller de l'avant. Et bon, ça fait 50 ans et c'est vrai que GAS bijoux est une marque qui est souvent suivie, copiée. Donc, ça nous force à être toujours plus créatifs et se dépasser.
Et pour vous, Pauline Ligneux?
Oui, on a le même problème, en fait, nous aussi, évidemment. On a en plus, dans la joaillerie, vous savez, le poinçon, en fait, qui certifie la qualité du métal précieux. Donc, nous, on travaille qu'avec de l'or 18 carats, du platine ou de l'argent massif. Donc, en fait, ça va être poinçonné. Donc, vous avez déjà cette certitude avec le poinçon de maître, donc, qui est celui de notre maison. Mais au-delà de ça, c'est vrai que, par exemple, on a fait une collection, donc, toujours sur le thème du chat, qui s'appelle la collection J'ai Miaou, et qui a été copiée, mais de tous les côtés. Ça a été l'enfer. Et donc, on est obligé d'essayer de se défendre. Et étant une petite entreprise, quand même, par rapport à des grandes maisons, parfois, c'est pas simple, mais heureusement, il y a l'INPI, etc., qui font qu'on arrive à se protéger un petit peu.
Riyad ?
Ouais, finalement, concrètement, votre seul objectif, c'est de vendre un maximum et d'être créatif et de faire pour obliger les contrefacteurs à aller moins vite que vous, en fait, finalement, vous n'avez pas d'autre choix.
Exactement.
Vous êtes obligé d'être créatif, en fait, c'est ça dont je m'aperçois, quoi, parce que sinon, vous êtes copié.
C'est vrai, mais dans la joaillerie, par exemple, souvent on essaie de créer des modèles iconiques parce que c'est vrai que quand c'est des paniers moyens qui sont un peu plus élevés, les collections, en fait, il y a moins de turnover, c'est pas aussi fréquent. Et en fait, créer un modèle iconique et ensuite le voir copier, c'est assez frustrant parce qu'en plus, on a investi énormément en travail sur la création, évidemment, on travaille sur la plateforme de marque, enfin, à tous les niveaux, en communication. Et donc, c'est vrai que c'est important quand même de réussir à se protéger un petit peu.
Justement, la protection, on en parlait. On ne vous a pas posé la question tout à l'heure. J'ai demandé à Céline et à Olivier comment vous travaillez sur le côté éthique. Parce que vous travaillez avec des pierres précieuses. Vous faites attention à la provenance justement de ces pierres?
Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est une question difficile en joaillerie. En fait, nous, on travaille déjà avec uniquement en fait, des fournisseurs qui sont des fournisseurs vraiment avérés, très réputés sur le secteur. Et puis au-delà de ça, en fait, on est en train d'ouvrir vraiment une démarche dessus. On a lancé une première collection avec des diamants de synthèse il y a très peu de temps, qui s'appelle la collection Octo. Et donc le diamant de synthèse, c'est un diamant qui est fabriqué par l'homme, donc qui a une valeur aussi. C'est la même chose en fait chimiquement, c'est juste que c'est fabriqué par l'homme. Donc il n'y a pas de problème éthique. C'est peut-être moins, on va dire, au niveau émotionnel, moins puissant, mais c'est en tout cas une démarche qu'on est en train d'ouvrir. Puis au-delà de ça, vous savez, tous nos diamants sont quand même certifiés label de Kimberley, donc le processus de Kimberley qui certifie que ce ne sont pas des diamants de sang. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour nous et j'invite évidemment les consommateurs à faire attention à ça.
Oui, c'est important, comme vous dites. La suite, c'est quoi pour vous, chez Altesse, chez les Georgettes, Céline?
Sur les Georgettes, du coup, on va se diversifier, c'est-à-dire qu'on a démarré par le bijou et par la manchette. Aujourd'hui, on a tous les types de bijoux, colliers, boucles d'oreilles, bagues. On a lancé la maroquinerie, donc toujours avec cette idée de créer soi-même son propre accessoire, où on peut utiliser les cuirs qui sont utilisés pour les bracelets. On lance l'horlogerie cette année. Donc
les montres
en mars.
Interchangeables aussi.
Exactement, on sera sur le même concept.
Toujours fabriqué en France?
Non, sur l'horlogerie. L'horlogerie, il faut quand même être... les boîtiers sont faits en Asie, donc en acier. En termes d'horlogerie, après, il y avait, par rapport à ce côté éthique, savoir si on disait que c'était monté en France, mais on a pris le parti de dire comme ce n'est pas fabriqué en France, on ne va pas le dire, on ne va pas le monter en France pour mettre Made in France. Donc on assume que c'est fabriqué ailleurs. Donc c'est fabriqué en Asie, en acier, mais en revanche, on a toujours cette exigence de qualité. On a un mouvement japonais dedans, etc. Et les bracelets cuir. Et donc le boîtier va venir être interchangeable entre un bracelet cuir et les manchettes que la consommatrice a déjà.
Olivier Gas, la suite aussi pour vous, l'avenir, c'est développer l'international, hein, si j'ai bien saisi. Tout et toujours être créatif, évidemment.
Toujours être créatif. Bon, cette année est une année particulière puisqu'on fête nos 50 ans. Donc ça va permettre d'explorer des nouveaux territoires, des nouvelles matières dans nos créations. Et également, on a beaucoup de demandes de nos clients, nos partenaires, de visiter les ateliers. Alors c'est sûr que c'est un endroit qu'on garde secret parce que c'est une maison-atelier dans laquelle on vit. Et donc on va essayer de trouver une façon digitale de faire découvrir nos ateliers. Donc ça, c'est un peu un défi pour cette année, pour pouvoir faire plaisir à des clientes qui sont très fidèles.
Merci à tous les trois d'être venus nous parler de vos marques françaises qui vont bien et qui étaient à l'honneur aujourd'hui. La bijouterie et les joailleries, les belles réussites françaises sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1.
Vous vous êtes probablement déjà demandé ce que signifiait le S et le T devant Dupont. Eh bien, vous le saurez dans un instant. C'est l'entreprise qui va bien. Merci.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Il est l'heure de découvrir l'entreprise qui va bien, merci. Elle est française et c'est l'emblème du chic, Raphaël.
Oui, cette entreprise, c'est ST Dupont. Bonjour Alain Crevet.
Bonjour,
merci,
enchanté d'être là.
Merci d'être avec nous. À vos côtés, Elisabeth Assayag. Face à vous, Riyad Boulanoir, qui est notre coach aujourd'hui. Vous présidez cette belle maison, vous, depuis 11 ans maintenant.
Exactement.
Et alors, on va évidemment lever tout de suite un mystère. ST Dupont, c'est pour Simon Tissot Dupont, maroquinier de son état, mais qui a été aussi le photographe de Napoléon III, c'est ça? On est en 1872?
Bravo, effectivement. Il a commencé sa carrière comme photographe avec son oncle pour l'empereur Napoléon III et pour la cour. Et puis ensuite, bon, bah, il a, les choses étant ce qu'elles sont, dans son village d'origine, en fait, ils étaient capables de faire de la maroquinerie, des accessoires. Et donc, il a commencé, se servant de ses contacts, à effectivement
créer des malles de voyage.
Voilà, créer des malles et des malles de voyage.
Pour Napoléon et pour l'impératrice Eugénie. Très raffiné, hein. On est dans la haute société parisienne, il va en vendre énormément, ça va plaire. C'est comme ça que ça démarre.
C'est comme ça que ça démarre, et en plus il a aussi ouvert un premier point de vente au magasin, les grands magasins du Louvre à l'époque. Et donc il y avait effectivement l'aristocratie qui venait se fournir. Et ce qu'il y avait de particulier, en fait, j'ai eu la chance d'avoir le dernier des Dupont, en fait, monsieur André Tissot Dupont, qui était au conseil de surveillance pendant 7 ans avec nous, de 88 ans à 95 ans. Quand je suis arrivé, je l'ai fait revenir, le dernier.
Qui vous
famille.
A quitté, je crois, il y a 5 ans. Hein.
Voilà, il est décédé il y a 4 ans à peu près. Et donc il me racontait comment, avec son grand-père, il travaillait, il faisait en fait ces fameuses malles et mallettes, mais qui ne venaient pas, comme il me disait, n'étaient pas vides. Elles venaient en fait avec, sur mesure, un certain nombre d'accessoires que les gens choisissaient. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leurs premiers briquets, stylos, etc.
Oui, pour mettre à l'intérieur des malles. On est dans l'accessoire pour hommes au départ, essentiellement. Oui. Vous l'avez dit, 1884, fournisseur officiel pour les grands magasins du Louvre. Et puis, en 1930, là, il y a Lucien Tissot qui arrive, toujours la famille, qui invente un nouveau traitement révolutionnaire. Je crois que c'est à lui que Humphrey Bogart va venir demander aussi un sac de voyage plus léger.
Oui, on a eu à l'époque, alors à la fois c'était Humphrey Bogart et Audrey Hepburn, puisqu'il y avait quand même quelques produits plus féminins, mais vous avez raison, la maison est quand même essentiellement sur les produits masculins. Et donc ils travaillaient toujours sur ces traitements de cuir ou de toile enduite qui soient légers, performants, et pour remplacer ces malles et ces mallettes traditionnelles qui étaient quand même assez lourds à porter. Voilà, ils ont fait des espèces de sacs de week-end. Toujours aussi livré avec des accessoires. Et Humphrey Bogart, comme vous le savez, était un assez gros fumeur, oui. Donc il utilisait aussi les briquets Dupont.
On fait un bond en avant. Vous arrivez en 2006-2007 avec le fameux dernier monsieur Dupont de la lignée. Vous entrez à la table des actionnaires et ça ne va pas très bien à ce moment-là. Hein. Comment vous faites pour redresser la barre?
Alors, ce qui est assez paradoxal, en fait, c'est lorsque je suis arrivé, donc fin 2006, début 2007, la société avait enregistré des pertes cumulées de plus de 40 millions d'euros en 2 ans, pratiquement leur chiffre d'affaires en perte. Et je crois qu'une des raisons, et c'est parfois ce qui se passe dans ces belles maisons, ils avaient un peu perdu leur chemin, ou peut-être ils avaient voulu faire comme leur concurrent Dunhill, le concurrent anglais en fait, qui est assez proche finalement de Dupont. Mais Dunhill s'était diversifié en faisant du prêt-à-porter pour hommes. Et donc Dupont avait essayé de faire la même chose. Et donc moi, lorsque je suis arrivé, je suis allé voir donc les boutiques Dupont et j'étais très surpris de trouver en fait des vestes, des costumes.
Vous avez recentré sur l'activité principale.
Et alors exactement. Donc moi, tout de suite, en fait, j'ai dit c'est pas du tout l'histoire de Dupont, c'est pas l'essence de Dupont. Et donc on a vraiment arrêté ça et on s'est refocalisé uniquement sur les accessoires, briquets, stylos, maroquinerie.
Qui sont fabriqués ici en France hein, pour la plupart. Alors, à Faverges.
Absolument, voilà. Le village d'origine de monsieur Simon Tissot Dupont, Faverges, Haute-Savoie, à peu près 10 minutes d'Annecy et pas loin de la frontière suisse et pas loin des pistes surtout.
Vous en avez quelques-uns d'ailleurs, des modèles Dupont avec vous, je crois.
Voilà, alors j'ai amené en fait quelques-uns des modèles typiques, donc le fameux briquet Dupont, voilà, entièrement fait en, là c'est de finition or blanc et laque de chine bleue, avec aussi le stylo qui va avec. Une finition or jaune pour alterner. Et puis donc la petite maroquinerie, vous voyez ici un petit porte-carte. Donc tout ça fait
avec
la Faverges.
Avec effectivement le petit logo tricolore sur le côté. Combien de personnes travaillent avec vous aujourd'hui?
Alors au niveau, dans le monde, entre guillemets, on reste une petite société, on est 360 personnes, mais en fait le cœur du réacteur, c'est quand même avant tout la fabrique, donc à Faverges. Donc on a à peu près 115 personnes dans les ateliers, parce que c'est beaucoup de choses qui sont faites à la main, donc 115 personnes. Et puis on a à peu près une centaine de personnes à Paris, qui sont tout ce qui est bureau commercial, les finances, la comptabilité, etc.
Riyad ?
Ouais, moi je voulais savoir, c'est quoi le client typique chez Dupont maintenant ?
Alors, ça reste encore très masculin, même si on essaye, on s'efforce, peut-être qu'on en parlera, mais on a lancé, je l'ai amené aussi en fait pour Noël, le premier briquet bougie. C'est une nouveauté, donc on a eu pas mal effectivement de succès là, pour les cadeaux de Noël. Mais le client typique, alors, donc c'est un homme qui souvent a 40, 45 ans, parce que bon, on est encore un petit peu, les briquets représentent encore pratiquement presque 50% de notre activité.
Malgré les lois anti-tabac ?
Malgré les lois anti-tabac.
Ça n'a pas bougé, en fait, ça ne l'a pas
c'est
fait
l'objet,
bouger.
Oui, c'est l'objet.
Alors, pas énormément, mais en fait, en réalité, on a essayé de se spécialiser un petit peu plus. On a fait de la segmentation, donc en particulier auprès des fumeurs de cigares. Et donc là, bon, les fumeurs de cigares, vous connaissez sans doute, en fait, c'est quelque chose, le cigare est une sorte d'art de vivre. En fait, c'est assez plaisant de se retrouver avec des amis, puis c'est assez cher d'acheter des cigares. Donc en fait, on s'est dit que les gens qui sont capables de s'acheter une boîte de Cohiba ou de Monte Cristo, que sais-je, avoir un beau briquet pour profiter de l'instant, ça va bien.
Donc en
travaillant sur ces cibles de fumeurs de cigares et en étant assez présent dans les clubs cigares, on a bien bien développé l'activité. Et on a réussi à rajeunir un petit peu aussi avec justement, madame en parlait, tout ce qui est les sacs là, inspirés par Humphrey Bogart qui était un peu vintage mais modernisé. Donc ça pour notre collection de maroquinerie, ça nous a permis d'attirer des hommes un peu plus jeunes, 30-35. Donc maintenant, et international bien sûr, on en parlait tout à l'heure, la France représente seulement 10% des ventes.
D'accord, et tout le reste est fait à l'international ?
Voilà, donc le 90% des ventes sont faites international et donc c'est réparti à peu près un gros tiers Europe, un tiers Asie et le reste, on a un peu le Moyen-Orient et un peu d'États-Unis.
Et c'est donc l'entreprise qui va bien, merci. ST Dupont aujourd'hui avec pas mal de nouveautés, hein, vous pourrez les découvrir, notamment cette nouvelle montre Hyperdome qui est testée en France et à Hong Kong et puis le premier briquet spécial pour les bougies. Merci Alain Crevet d'être venu nous en parler aujourd'hui
merci
sur
à vous,
Europe 1.
C'est un grand plaisir.
Il est 13h48.
Europe 1.
Et on va s'intéresser aujourd'hui à une association qui nous apprend les gestes qui sauvent. C'est les petits héros et elle est sélectionnée pour les trophées de l'avenir. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et comme tous les jours, juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour. Et aujourd'hui, elle concerne les enfants.
Oui, on continue à faire le tour de nos entreprises en lice pour les trophées de l'avenir. Aujourd'hui, Elisabeth, vous nous présentez une association, ça s'appelle les petits héros.
Une association qui existe depuis 2015, elle est née en Bretagne et elle enseigne ce que nous devrions tous savoir, nous les adultes. Les petits héros organisent des événements qui permettent l'apprentissage des gestes qui sauvent, mais pour un public âgé de 3 à 10 ans. Des stages de secourisme sont organisés à travers le jeu et la pédagogie. Les enfants prennent alors conscience qu'il faut agir et venir en aide quand une personne est en situation de danger ou de détresse. Ils ont en main des outils pour devenir des mini-secouristes.
Bonjour Hicham Gaddès.
Bonjour Raphaël.
Merci
bonjour
d'être avec nous. Vous êtes le président des petits héros. Comment est-ce qu'elle est née, cette idée de former les plus jeunes à sauver des vies ?
Alors, il y a deux choses. Donc, la première, j'ai été pompier dans un premier temps. Et donc, face à des situations d'accident, on se rend compte que, mais en finalité, l'accident, c'est une surprise déjà. Et c'est la réalité de beaucoup de monde aussi. Et dans un deuxième temps, je suis formateur professionnel aussi pour adultes en secourisme. Et il y a beaucoup d'adultes, enfin je me suis rendu compte qu'en finalité le secourisme c'est quelque chose qui est beaucoup, enfin qui est accessible, qui est simple en soi le secourisme, mais souvent ce sont les comportements. Beaucoup de monde ont peur de mal faire ou peur de faire mal. Alors peur de mal faire, peur de faire mal, pourquoi ? Parce que très souvent ben, ils ont des croyances, des idées reçues qui les empêchent d'agir comme il se doit. Voilà.
Alors concrètement, comment ça se passe ? Vous enseignez quoi aux enfants et de quelle manière ?
Pour les enfants, donc ça va de 3 à 10 ans déjà dans un premier temps. Pour les enfants de 3 à 5 ans, on est toujours sur la base protéger, alerter, secourir, hein, de 3 à 10 ans.
Mais par exemple, vous leur dites quoi avec votre langage à un enfant ? Imaginez, nous sommes des enfants de 3 ans là, dans le studio, ce que nous sommes tous un peu. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Ben, par exemple, pour les enfants de 3 ans, de 3 à 5 ans, on va leur dire est-ce que le ventre de ton papa bouge ? Est-ce que les yeux sont ouverts ? Voilà, on va faire pas mal de prévention. C'est important, on va faire de la prévention. Et dans le cadre de la prévention, c'est qu'est-ce qui coupe ? Qu'est-ce qui brûle ? Qu'est-ce qui rend malade ? Donc, on est sur des questions relativement simples. Une fois qu'on a parlé de prévention, on va parler de protection, de se protéger. Donc, on dira à l'enfant de jamais prendre de risques pour lui. Et sur qu'on appelle l'examen, pour l'enfant, on va faire quelque chose de simple. Hein, c'est être capable de reconnaître une situation normale d'une situation anormale. Et pour ce faire, il va poser « Papa, papa, est-ce que tu m'entends ? Papa ?» il va regarder si le ventre bouge pour savoir s'il respire, identifier éventuellement que la situation est anormale. Et donc là, soit aller chercher un adulte à proximité, soit, le cas échéant, de composer au moins un numéro d'urgence et prévenir les secours. Alors, 3-5 ans, au moins un, sur les trois qui existent, 15, 18 et 112, pour lesquels, le numéro pour lequel il est le plus à l'aise. Et ensuite, pour les 9-10 ans, par exemple, ça va être l'ensemble des numéros d'urgence, dont le 114.
Elisabeth ?
Aujourd'hui, les petits héros, c'est partout en France. Comment on fait pour, pour ceux qui nous écoutent, une maman, une école, comment s'y prendre pour vous trouver ?
Alors, les petits héros, c'est partout en France. On a démarré en 2015, on était à peu près, on a commencé à 3. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine de bénévoles. On n'est pas sur toute la France, mais on cherche à s'implanter partout en France. Donc, on cherche des bénévoles pour créer des associations locales. Aujourd'hui, on est dans le Nord, à Douai et Valenciennes. On est dans le Finistère, Finistère Nord et Finistère Sud. On est en Ille-et-Vilaine, à Rennes, Saint-Malo. On est à Bordeaux. On est en Corse Sud. On va ouvrir une association à Lille. On va ouvrir aussi une association du côté de Lyon, Rhône-Alpes.
Et vous sollicitez les écoles ?
Ouais, on sollicite les écoles, mais ça je vais y venir. Et en Nouvelle-Calédonie, voilà, on s'exporte.
Les écoles comment, par exemple ? Comment est-ce que vous les sollicitez ?
Alors, au départ, on souhaitait intervenir dans les écoles. C'était notre premier objectif. Et en fait, on s'est rendu compte que 80% de nos bénévoles sont des travailleurs. Donc, il était très difficile de répondre favorablement à la demande des écoles. Donc, quand on peut le faire, on le fait. Sinon, nous, on a décidé de créer nos propres écoles de secourisme pour laquelle on va proposer des sessions aux enfants. À l'initiative, les parents vont inscrire leurs enfants à des stages de secourisme en dehors du temps scolaire.
Ça s'appelle donc Les Petits Héros.
C'est Les Petits Héros.
C'est une des associations qui est sélectionnée au Trophée de l'Avenir d'Europe 1. Merci d'être venu nous en parler.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci à Riyad qui était notre coach aujourd'hui.
Raphaël, merci.
On se retrouve demain.
À
nous, demain, Elisabeth, Raphaël. Nous parlerons des guides français.